Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir, Le Monde Aujourd'hui, édition du 2 juin 2014. Nathalie Barge en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington en compagnie de Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nathalie.
Alors au sommaire ce soir, nouveaux attentats au Nigeria. Les forces de sécurité camerounaises disent avoir tué 60 membres de Boko Haram. Le gouvernement centrafricain annonce une journée de désarmement volontaire. 20 morts dans de violents combats à Benghazi en Libye. Et le parti de Laurent Gbagbo divisé sur le recensement en Côte d'Ivoire.
Mais il faut reconnaître que la majorité des militants est contre la direction qui fait campagne pour la levée du mot d'ordre.
République démocratique du Congo, une ONG affirme que des femmes actives en politique sont victimes de viols par des fonctionnaires.
Il est beau des siens de protocole, des siens de loi de gauche à droite, mais le gouvernement du RDC ne prend pas ses responsabilités.
Et nous aurons aussi bien entendu les sports et la musique en fin d'émission avec Roger Muntou, mais pour l'instant, le journal.
L'armée nigériane a annoncé l'arrestation d'un suspect en rapport avec un attentat à la bombe qui a fait hier au moins 40 morts à l'issue d'un match de football dans le nord-est du Nigeria. Le point avec Bagasikoura.
L'attentat a eu lieu sur un terrain de football de la ville de Mubi dans l'état d'Adamawa. Selon l'AFP, au moins 40 personnes ont été tuées. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais porte la marque du groupe islamiste Boko Haram. Le porte-parole de l'armée nigériane, Chris Olukolade, a affirmé ce matin qu'un suspect a été arrêté au cours d'une intervention de l'armée qui a bouclé la zone. Cette attaque intervient quelques jours après un discours du président Goodluck Jonathan, promettant, je cite, « une opération à grande échelle pour mettre fin à l'impunité des terroristes ». L'Adamawa est l'un des trois États du nord du Nigeria où l'état d'urgence est en vigueur depuis plus d'un an pour tenter de mettre fin à l'insurrection islamiste qui a fait des milliers de morts depuis 2009.
Le Cameroun a déclaré la guerre à Boko Haram. L'armée camerounaise affirme avoir tué au moins 60 membres de la secte islamiste. Issa Napon.
Selon la radio nationale, l'armée camerounaise a tué ses hommes armés et membres de Boko Haram. Ils ont été piégés à Dabanga, un village de la région de Maroua, dans le nord du pays. Selon Fonka Awa, gouverneur de cette région, il s'agit d'une opération réussie. Ebenezer Akanaga, journaliste à la radio nationale, estime que les militaires auraient dû agir plus tôt pour priver Boko Haram de cette base arrière. Le mois dernier, le Cameroun et le Tchad, deux voisins du Nigeria, ont déclaré la guerre à Boko Haram. Yaoundé a déployé dans la foulée quelques 2000 soldats à la frontière avec le Nigeria. Signalons aussi que les deux prêtres italiens et la religieuse canadienne enlevés début avril au Cameroun ont été libérés. Leur enlèvement n'avait jamais été revendiqué, mais Boko Haram est pointé du doigt.
En RCA, un calme relatif règne à Bangui au lendemain de violences meurtrières. Les activités ont repris timidement. Le premier ministre de la transition, André Nzapayeke, a annoncé hier que le 8 juin sera une journée nationale de désarmement volontaire à Bangui. Le point avec Idriss Fall.
La journée a été plutôt calme ce lundi à Bangui. L'appel à la reprise du travail lancé par le chef du gouvernement a été observé. Les fonctionnaires ont repris le travail. Les commerces, les écoles ont rouvert et quelques taxis circulent en ville. Dans une déclaration hier, le premier ministre de la transition, André Nzapayeke, a indiqué que le 8 juin 2014 sera une journée nationale de désarmement volontaire à Bangui.
Le désarmement aura lieu dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième arrondissement de Bangui, ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Aussi, le gouvernement a décidé de faire de la journée du dimanche 8 juin 2014 une journée nationale de désarmement volontaire. Toute personne qui détient une arme à feu est appelé à le restituer volontairement.
André Nzapayeke a par ailleurs précisé que toute manifestation non autorisée par le ministère de la Sécurité publique sera considérée comme illégale et par conséquent sera sanctionnée.
Kigali s'est encore insurgé contre l'ONG américaine Human Rights Watch et l'a qualifié de porte-voix des groupes terroristes, menaçant une campagne de propagande contre le Rwanda. Dans un document publié ce lundi par la presse nationale, le ministère rwandais de la Justice menace implicitement de ne pas renouveler le protocole d'entente qui lie Human Rights Watch aux autorités rwandaises et redéfinit les termes de l'activité au Rwanda de l'ONG. Le protocole prévoit notamment qu'elle recueille la position du gouvernement rwandais avant toute publication sur le pays. Entre autres affaires, le ministère fustige l'ONG pour avoir dénoncé le mois dernier des disparitions forcées au Rwanda sans attendre les réponses du gouvernement à ce sujet.
Et puis 20 morts et plus de 80 blessés dans de violents combats à Benghazi en Libye entre des islamistes et le général renégat Khalifa Haftar. Selon les autorités, les affrontements ont commencé quand le groupe islamiste Ansar al-Sharia a attaqué une base des troupes fidèles au général Haftar, tuant ou blessant plusieurs soldats. L'armée de l'air a riposté par des frappes sur les camps et les bastions des milices islamistes qui ont lancé des grenades et des missiles anti-aériens en retour. Les combats ont déclenché la panique à Benghazi. Les habitants se sont cloîtrés chez eux et les écoles ont été fermées.
Le nouveau président du Malawi, Peter Mutharika, a reçu l'investiture aujourd'hui, 2 jours après sa prestation de serment. Il succède à Joyce Banda qui avait réclamé l'annulation des résultats du scrutin, mais sa demande a été rejetée la semaine dernière par la haute cour du pays. Dans son allocution d'investiture, Peter Mutharika, frère du défunt président Bingu wa Mutharika, a lancé un appel à la réconciliation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Obama entame ce lundi une tournée européenne avec des escales en Pologne, en Belgique et en France. En Pologne, il s'entretiendra avec le président élu de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Une rencontre qui intervient alors que Kiev poursuit son offensive contre les rebelles séparatistes de l'Est russophone. Le chef de l'exécutif américain se joindra à 7 membres du G8 mercredi et jeudi à Bruxelles, la Russie étant exclue. En France, Barack Obama assistera vendredi à la commémoration du débarquement allié en Normandie. Le président russe Vladimir Poutine est également invité, mais aucune rencontre n'est prévue entre les deux hommes. En revanche, il s'entretiendra en Normandie avec le premier ministre britannique David Cameron.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a investi aujourd'hui le nouveau gouvernement d'Union nationale. Une étape majeure puisque depuis 7 ans, le Fatah et le Hamas dirigent chacun une partie du territoire palestinien. Des détails avec Nicolas Pineau.
Oui, la cérémonie a eu lieu à Ramallah, non sans péripéties. Les deux camps se sont disputés à la dernière minute la décision du président Abbas de ne pas nommer un ministre des Affaires carcérales. Ce gouvernement est issu de l'accord politique conclu en avril dernier par les deux frères ennemis. Les États-Unis considèrent toujours le Hamas comme une organisation terroriste et le secrétaire d'État John Kerry a exprimé sa préoccupation hier sur la participation du groupe islamiste au gouvernement. Le président Abbas a tenté de rassurer ses interlocuteurs sur le caractère non violent du gouvernement et la reconnaissance d'Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pressé les dirigeants des grandes puissances de ne pas reconnaître ce gouvernement palestinien. Selon lui, cela ne ferait que renforcer le terrorisme, puisque le Hamas appelle à la destruction d'Israël.
Le roi d'Espagne, Juan Carlos, a abdiqué. Son fils, le prince Felipe, va prendre le relais, Jean-Roger Bion.
C'est le premier ministre Mariano Rajoy qui a annoncé l'abdication du monarque, mais cette décision ainsi que l'accession au trône du futur souverain vont nécessiter l'adoption d'une loi organique. Le chef du gouvernement a donc convoqué un conseil des ministres extraordinaire pour demain mardi. Désigné comme dauphin par Francisco Franco, Juan Carlos était monté sur le trône à la mort du dictateur en 1975. Il s'était bâti une popularité sur sa capacité à mener la transition démocratique, mais a été par la suite éclaboussé par de nombreux scandales. Notamment, il s'est permis une partie de chasse à l'éléphant au Botswana en pleine crise financière de son pays. Un safari au cours duquel il s'est cassé la hanche et a dû être rapatrié en Espagne à bord d'un avion privé. Âgé de 76 ans avec une santé fragile, Juan Carlos passe le relais à son fils. Le prince Felipe, 46 ans, doit devenir le prochain roi d'Espagne sous le nom de Felipe VI.
Le gouvernement du président afghan Hamid Karzai se dit préoccupé par la libération d'un soldat américain en échange de 5 talibans détenus à Guantanamo Bay. Le Qatar, qui a facilité l'accord, sera l'hôte des 5 prisonniers pendant un an. Ils sont interdits de quitter le pays durant cette période, mais pour Kaboul, qui n'a pas été informé à l'avance, ce transfert constitue une violation du droit international. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du Studio 13 à Washington avec Nathalie Barge en compagnie de Timothée Donangmaï.
Selon une étude publiée ce lundi par l'ONG Freedom from Torture, le viol est encore utilisé régulièrement par des fonctionnaires de la RDC contre des femmes actives en politique.
Et oui, Timothée, selon cette ONG, les sévices ne sont pas confinés à l'est du pays où opèrent les milices, précise Kolbassia Aoussou de l'ONG Survivors Speak Out, qui coopère avec Freedom from Torture. On l'écoute.
La violence sexuelle n'est pas seulement à l'est du Congo, là où il y a le conflit. La plupart des participants dans cette étude ont été violés dans des prisons qui sont contrôlées ou dirigées par le gouvernement à Kinshasa et dans d'autres régions du RDC. Donc cela prouve que ces actes criminels de viol ont été perpétrés hors des zones de conflit, quoi.
Pourtant, la RDC a annoncé son intention de signer le nouveau protocole international pour la prévention des violences sexuelles dans les zones de conflit.
Oui, évidemment, c'est un protocole qui sera lancé par le gouvernement britannique. Et il y aura une délégation de RDC qui sera présente pour certainement réaffirmer leur support ou bien pour signer ce protocole. Mais la question qu'on se pose toujours, il est beau de signer des protocoles, mais le gouvernement du RDC ne prend pas ses responsabilités pour implémenter ce protocole qu'il signe. Par exemple, du fait que le gouvernement du RDC est signataire de la Convention contre la torture, mais c'est depuis 2005 et cela ne nous donne pas confiance qu'en signant ce protocole, tout ce qui doit être mis ou pris en charge sera aussi respecté par le gouvernement du RDC. Quoi.
Est-ce que les femmes sont soumises à d'autres sévices que le viol durant leur détention?
Oui. Cette étude l'a bien prouvé que les femmes ont été battues, ont subi d'autres formes de violence. Il y a ceux qui ont été emprisonnés dans des conditions vraiment lamentables. Il y a certains qui sont complètement isolés dans une cellule vraiment trop sale et où il n'y a pas d'eau potable. Il y a certains qu'on les a mis dans peut-être 10 ou 20 dans une petite cellule. Il y a certains qu'on les a brûlés avec des cigarettes et ainsi de suite. Les victimes ont été abusées par des agents de l'État dans des prisons contrôlées par l'État.
Kolbassia Aoussou de l'ONG Survivors Speak Out répondait aux questions de Camille Gros-Didier, qui a également joint Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement de la RDC. Écoutez sa réaction.
C'est un rapport totalement déjanté et nous n'avons pas souhaité réagir tellement les faits sont complètement enchevêtré. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas le pays, ni l'histoire, ni la géographie du pays qu'il a écrit. C'est totalement ridicule. Nous n'avons strictement rien à dire. Sauf sinon, nous donnerions de la crédibilité à des petits malins qui s'amusent simplement à essayer de détruire l'image de notre pays pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Nous n'avons strictement rien à dire à ce sujet-là, contrairement à notre habitude.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, était joint à Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire, où le gouvernement a annoncé ce week-end la libération de 50 détenus de la crise post-électorale de 2010-2011. un geste présenté par le ministre de la Justice comme un signe d'apaisement en direction des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais la société civile a des réserves.
On s'entend sur le fait que c'est la justice qui doit primer pour les libérer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui étaient là juste par hasard, ils n'ont jamais fait de la politique, ils sont en prison. Simplement par une erreur de patronyme, certains parce qu'ils étaient allés dire bonjour à leurs frères, et ainsi de suite. Donc pour nous, tous ceux qu'on ne peut pas inculper doivent sortir sur le plan de la justice purement. Maintenant, ceux qui ont agi dans la crise et qui sont reconnus comme tels se font inculper et puis bon, la justice suit son cours.
Que fait la société civile pour faciliter ce processus?
Nous avons fait toutes les démarches possibles. La première démarche a été le constat sur le terrain, l'augmentation des individus, de ce qu'on leur reprochait et tout, et des dossiers. La Convention de la société civile ivoirienne, vous avez toutes les organisations de droits de l'homme comme la LIDO, le MIDH, APDH, qui ont documenté tout ce qui était pratiquement relatif à ces prisonniers qu'on dit pro-Gbagbo. La deuxième étape a été d'aller vers les autorités et leur dire par écrit, il faut que les gens soient inculpés parce qu'il y a des gens qui ont vu le juge d'urgence et ils ont été juste emprisonnés.
Docteur Kwame Christophe, coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne, joint à Abidjan.
Alors, il existe de grandes divergences entre la base et les cadres dirigeants du Front populaire ivoirien quant au recensement. L'idée de suspendre le boycott en échange de la remise en liberté de prisonniers présumés pro-Gbagbo ne fait pas non plus l'unanimité. Alors, pour un éclairage, écoutons le journaliste indépendant Ferro Bali.
Naturellement, le gouvernement a voulu engager une sorte d'opération libération des prisonniers contre la levée du mot d'ordre de boycott. Ce mot d'ordre de boycott a été arrêté par un comité central, une structure du parti qui a donc décidé, par rapport à la situation politique qui prévalait, qui prévaut encore, de demander à ses militants et aux Ivoiriens en général de boycotter l'opération de recensement. Donc cette décision ne peut pas être comme ça levée par un président fut-il à fin de sang, mais par une structure du parti. Or, les causes qui ont entraîné la décision de boycott demeurent encore. Donc, il y a effectivement des difficultés pour le président Alpha Condé d'avoir l'adhésion des militants.
Donc, vous voulez dire qu'il y a division au sein du FPI sur cette question?
Oui, le FPI est effectivement divisé. Mais il faut reconnaître que la majorité des militants est contre la direction qui fait campagne pour la levée du mot d'ordre. La direction du FPI a demandé un autre comité central extraordinaire qui doit avoir lieu dans les jours à venir pour essayer définitivement de prendre une position en faveur ou pas de la levée du mot d'ordre de boycott.
Il reste encore des centaines de prisonniers pro-Gbagbo.
Il y a effectivement des centaines.
Notre confrère ivoirien Ferro Bailly, ancien directeur adjoint de Fraternité Matin.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Le Congo-Brazzaville a rejoint les rangs des pays où le débat sur la constitution fait rage. Des ministres et dignitaires dans certaines provinces demandent au président Denis Sassou Nguesso de la modifier afin de rester au pouvoir, ce que n'admet pas l'opposition. De Brazzaville, Nguela Nguesso.
Le débat sur la modification de la Constitution s'est ravivé ces dernières semaines. Dans la rue, deux camps s'expriment différemment. Ceux qui sont contre...
On ne change pas la Constitution, il n'y a pas à toucher. Ne fût-ce que la tête de I, on ne touche pas.
Et ceux qui estiment que la Constitution n'est pas une Bible.
Et si les élus, quelque part, sont limités dans leur action parce que la Constitution de 2002 ne l'autorise pas, moi je crois que c'est un motif pour pouvoir regarder dans quelle mesure cette Constitution peut être retouchée ou changée tout simplement.
Toujours silencieux, le président Denis Sassou Nguesso a initié une série de rencontres citoyennes où les sages lui demandent de changer de Constitution pour briguer un troisième mandat. Pour Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, le dernier mot reviendra au peuple.
Les multiples déclarations tendant à faire croire à l'opinion que le Parti congolais du travail met en œuvre la décision déjà prise du président de la République de changer la constitution. Ni le Parti congolais du travail, ni la majorité présidentielle n'ont pris une résolution à ce sujet. Nous sommes désormais un espace de démocratie, chacun libre de donner son opinion. Et la dernière parole revient au souverain primaire.
à l'opposition, ont crié au coup d'État constitutionnel. Clément Mierassa.
Le président Sassou a une mouture de constitution depuis 2013. Pourquoi il ne la sort pas? C'est parce que nous étions déjà dans le combat. Et aujourd'hui, le folklore que nous vivons avec les sages, les jeunes à travers ça, ce ne sont que des manipulations, une instrumentalisation organisée par les partis au pouvoir. Et le président Sassou part en 2016. Il lui reste 810 jours.
Une plateforme a même été créée à Brazzaville pour empêcher le changement de la constitution. Gilda Mounsara est son porte-parole.
2016, c'est pour nous un tournant où nous devons donner la preuve que notre pays a atteint la maturité démocratique et politique. Il va falloir que le président actuel qui a prêté serment de respecter et de défendre la constitution quitte le pouvoir puisqu'il a exercé deux mandats. Il ne peut pas en exercer plus.
Pour de nombreux observateurs, ce débat qui ne fait que commencer va bientôt soulever les vagues. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Actualité américaine, l'administration Obama a dévoilé un plan de réduction de près d'un tiers des émissions de carbone provenant des centrales électriques aux États-Unis au cours des 15 prochaines années. Des précisions avec Michel Joseph.
La directrice de l'Agence américaine de protection de l'environnement a qualifié la proposition d'ambitieuse mais réalisable. Et pour y parvenir, selon Gina McCarthy, il faut que chacun des 50 États américains se fixe son propre objectif adapté à ses particularités. Et les États ont la possibilité d'atteindre leur objectif de la meilleure manière pour eux. Pour élaborer les objectifs, nous avons examiné où se situent les États aujourd'hui et nous avons anticipé et observé où ils se dirigent. Chaque État est différent, chaque objectif et chaque piste peut être différent. L'initiative vise à promouvoir les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne. La proposition, qui devrait être achevée l'année prochaine, fixe les premières limites nationales sur le dioxyde de carbone, une des causes du changement climatique. Elle fait partie d'un vaste plan d'action annoncé par le président Barack Obama il y a un an pour réduire le réchauffement climatique. En 2009, M. Obama s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 17% en 2020 par rapport à leur niveau de 2005. Les associations de défense de l'environnement ont salué les initiatives, mais de nombreux groupes d'affaires et certains législateurs affirment que ces mesures vont coûter des emplois, augmenter le coût de l'énergie et causer un préjudice à l'économie. Pendant que d'autres mettent en doute ce que l'administration désigne comme étant les causes du réchauffement de la planète. Les nouvelles résolutions permettront en outre de diminuer le rôle du charbon dans la production électrique aux États-Unis. Les centrales électriques sont la principale source de gaz à effet de serre, ce qui représente environ un tiers des émissions annuelles du pays.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable, c'est possible. Allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. Et à présent, on passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger, de quoi on parle?
Salut Nathalie, le chanteur congolais Lokwa Kanza qui célèbre ses 20 ans de carrière solo à Kinshasa en compagnie de grands artistes internationaux a appelé à cette occasion les peuples d'Afrique et d'ailleurs à ne pas se laisser entraîner dans des guerres obscures. On écoute sa belle voix dans Nako Zonga.
Mama, mama, mama,
Makei, Kasilobi, Nako,
zobina kozonga mopembo ezali ndeli wanteo nakei kasi lobina kozonga
mayama
mopembo ezali ndeli wanteo
totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi e
nakei kasi lobi na kozonga
atandeleo
mopembo ezali ndeli wateo.
Alors Roger, en février dernier, le Kwakanza s'est produit à Goma, la capitale du Nord Kivu, au Festival Amani, hein, qui veut dire paix en Swahili, qui commence à être de plus en plus connu. Hein, et
l'accent, Nathalie, tu parles bien Swahili,
ah bon,
là.
Je me débrouille bien. Le Festival Amani, c'était pas bien dur à dire, quand même.
Mais écoute, l'artiste a confié aux médias que c'était la première fois qu'il se produisait à l'est de la République démocratique du Congo pour le Kwa. C'était très important, à la fois cette union entre les deux peuples, hein, congolais et rwandais, mais aussi pour les publics.
Et oui, donc d'ailleurs j'entendais discuter Timothée et vous-même, oui, Roger, oui, hein, parce que vous êtes des grands connaisseurs. Moi, je voudrais laisser parler Timothée. Parce
Oui. Alors Roger, je disais que je note un certain fond Papa Wemba dans cette musique.
C'est vrai,
ça, Papa Wemba, ses débuts.
Oui, on sent ça quand même, parce que Papa Wemba était quand même l'idole de Le Kwakanza. Oui. Le Kwakanza, Papa Wemba, c'est vraiment Papa Wemba. Et oui, Le Kwakanza, oui, quand il a commencé à faire sa musique, il aimait bien interpréter les chansons de Papa Wemba aussi.
Et lorsque j'étais de passage à Kinshasa, j'ai assisté à une répétition de Redi Amissi,
oui,
et qui nous a d'ailleurs beaucoup parlé de l'influence que Papa Wemba a eue sur lui.
Redi Amissi, c'est vraiment l'élève. C'est vraiment l'élève de Papa Wemba.
Alors merci beaucoup Roger et Timothée. Hein, c'était Le Kwakanza Nakozonga.
Nakozonga, je veux rentrer, je veux revenir.
Et on va passer au sport avant de se quitter. Hein.
Super.
Voilà, et pour cette page des sports, j'ai avec moi ici Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Timothée, bonsoir à tous.
Alors en football, jour J, moins 10 avant la Coupe du Monde au Brésil.
Oui, et les sélectionneurs qui ont donné leur sélection définitive pour le Mondial. D'abord, les éléphants du Côte d'Ivoire, on connaît les 23 joueurs. Drogba, Gervinho, Yaya Touré sont là sans surprise. Inattendu, la présence de Mathis Boly. Il est joueur du Fortuna Düsseldorf en Allemagne. La Côte d'Ivoire jouera donc dans le groupe C, qui n'est pas si facile, contre la Grèce, la Colombie et le Japon.
Et Bagassi, les Lions Indomptables, eux aussi, ont dévoilé leur équipe finale.
Oui, le sélectionneur allemand du Cameroun, Volker Finke, a dévoilé la liste des 23 joueurs. Jean-Armel Kanabik et Mohamedou Idrissou ont, eux, été écartés. Le jeune Cédric Diogou du Coton Sport ira bien au Brésil.
Jean-Armel Kanabik qui descend d'un célèbre papa footballeur lui-même. Oui. Parlons transfert à présent, Bagassi.
Oui, la presse anglaise annonce ce lundi soir que Frank Lampard, en fin de contrat à Chelsea, quitte le club londonien. Le milieu de terrain qui ira au Mondial a joué 13 saisons avec les Blues, avec qui il a tout remporté, dont la Ligue des Champions en 2012, la Ligue Europa en 2013 et trois fois la Première Ligue. Cette saison, Lampard a disputé 39 rencontres, toutes compétitions confondues, et inscrit 6 buts. Il pourrait s'engager avec New York prochainement, comme David Villa ce lundi.
Alors Bagassi, on récupère nos raquettes pour les internationaux de tennis de Roland-Garros.
Oui, et ça c'est à Paris. Le dernier rescapé français, c'est Gaël Monfils, qui s'est hissé en quart de finale de Roland-Garros. Pour la quatrième fois de sa carrière, il a dominé Guillermo Garcia Lopez 6-0, 6-2, 7-5 et affrontera Murray, tombeur de Verdasco. Nadal, Ferrer, Halep et Errani sont aussi qualifiés.
Et oui, Bagassi, le moins qu'on puisse dire, c'est que la fièvre du Mondial s'est aussi emparée de notre rédaction, puisque Nicolas, ouais, Pinault va nous...
Ouais. Il va au Mondial et vous l'avez vu dans Sporama, il n'y a pas si longtemps, on a passé tout le temps à parler de ce Mondial. Et même sur notre page Facebook, on le sent, hein, tout ce qu'on dit sur le Mondial, on a des centaines de commentaires et on sent que l'Afrique est vraiment dans la fièvre du Mondial.
Et Nicolas, il est physiquement ici, mais je crois que son esprit est déjà quelque part à San Paulo.
Et on pense que pour la première fois, l'Afrique ira très très loin, que ce soit le Cameroun, le Nigeria ou le Ghana. En tout cas, on espère qu'une équipe africaine aille jusqu'au Caridas.
Et voilà, merci, merci Bagassi.
Et voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Avec vous, c'était Nathalie Barger, Timothée Donormaille. On laisse la place au RM Show. Bonne soirée.